Dans le cadre de l'appel à projet du Fonds européen à l'intégration concernant la formation des jeunes primo-arrivants aux us, valeurs et coutumes de la société française. Nous retrouvons dans le cadre de ce deuxième mois avec un intervenant, une intervenante, devrais-je dire, Pascal Marot. Mais d'ailleurs, Pascal, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes responsable de l'INSUP Haute-Garonne, c'est bien ça, Pascal?
Oui, bonjour Jean-Christophe. Donc Pascal Marot, je suis responsable d'un centre de formation INSUP Haute-Garonne qui se situe Maison des Associations au 11 rue du 8 mai 45.
Alors Pascal, comme on a déjà parlé ensemble, effectivement ce deuxième mois dans le cadre de cette formation s'intéresse d'une part à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Donc la formation professionnelle, c'est évidemment une mission importante de l'INSUP. Alors peut-être pour commencer cette interview, Pascal, nous présenter l'INSUP.
L'INSUP des Hauts-de-Garonne est un des 22 sites dont dispose le groupe INSUP, hein, qui est une association loi 1901 qui a été créée en 1978. Donc à sa tête un président, Michel Ferriot, et un directeur, Bernard Garrigou. Donc, comme je vous disais, l'INSUP s'articule autour de 22 sites, 17 en Aquitaine, en Gironde, nous avons 8 sites dans les Landes, 3 sites dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne et en Lot-et-Garonne, et 5 autres sites qui sont localisés donc en Pays de la Loire, en Vendée plus précisément, en Poitou-Charentes, nous avons un site en Charente-Maritime à La Rochelle, et en Midi-Pyrénées, donc, qui est le dernier site qui vient d'ouvrir donc, dans le Gers, plus précisément à Condom.
Donc on le voit, l'INSUP est géographiquement, on va dire, implanté beaucoup dans le grand sud-ouest, Pascal. Alors, une fois qu'on a vu effectivement l'importance de cette couverture géographique, peut-être nous présenter dans un premier temps l'émission générale de l'INSUP.
Oui, alors on pourrait dire qu'il y a trois grands axes pour le groupe INSUP. La formation qualifiante ou infra-qualifiante, l'accompagnement, le placement et tout ce qui est initiative et international. Voilà, ça ce sont les grands axes.
Alors peut-être Pascal, on pourrait peut-être détailler chaque axe si vous voulez. On revient sur chaque axe en expliquant un petit peu ou succinctement.
Oui. Où on y reviendra en vous présentant un petit peu l'INSUP des Hauts-de-Garonne. Hein. Voilà, nous sommes essentiellement sur, quand on parle de formation qualifiante, c'est tout ce qui peut être diplômant. Donc ça peut aller d'un BEP, d'un bac pro, d'un BTS au titre professionnel. Infra-qualifiant, c'est toutes les actions que l'on peut avoir un petit peu en amont de ces parcours qualifiants. L'accompagnement, le placement, c'est essentiellement des actions, comme leur nom l'indique, hein, qui est sur l'insertion professionnelle, le placement en entreprise. Et initiative et internationale, ce sont des programmes qui sont menés dans le cadre des programmes européens. Mais voilà, je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure s'il nous reste un petit peu de temps.
Merci, merci Pascal. Alors effectivement, on les voit, trois grands axes qui conduisent l'émission de ce groupe. Ce groupe INSUP représenté dans tout le territoire du Grand Sud-Ouest. Alors effectivement, on va se recentrer sur l'INSUP Haute-Garonne. D'ailleurs, Pascal Marot, vous en êtes la responsable. Donc, alors un petit mot sur l'INSUP Haute-Garonne. Son action est mise en place depuis déjà quelques années.
Oui, alors le CIP INSUP Haut-de-Garonne a été créé le 1er janvier 1994, hein, donc sur la rive droite, toujours implantée sur ce nom. Et depuis 2000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la maison des associations, voilà, au premier étage.
Et là, la création, c'était un support de Garonne. Vous avez pu, à cette époque-là, déjà compter sur des partenaires qui vous ont permis de finalement d'émerger sur ce territoire et qui peut-être vous accompagnent encore aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Nous sommes donc implantés depuis 1994 et même si la formation dans sa globalité a évolué, nous avons toujours parfois les mêmes commanditaires et le public sont également les mêmes personnes qui sont ciblées depuis l'origine, puisque notre mission première, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Je vous parle des Hauts-de-Garonne, donc ça concerne toujours le même public.
Très bien. Donc, avec vous, Pascal, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et finalement, l'INSUP Hauts-de-Garonne. Alors, ça représente combien de personnes, combien de salariés
Alors,
une équipe importante, on imagine. Hein.
Tout à fait. Actuellement, nous sommes 23 salariés sur le site des Hauts-de-Garonne. Donc, un responsable ou une responsable, moi-même. Deux assistantes administratives. Un agent technique pour les locaux. 18 formateurs ou intervenants, dont 4 référents pédagogiques par rapport aux différents pôles que nous développons sur les Hauts-de-Garonne, 4 chargés de relations entreprises et une psychologue clinicienne qui nous accompagne au quotidien. Oui, un service comptabilité, hein, RH, ressources humaines, donc qui est sur Bordeaux, un service informatique qui nous assiste également au quotidien, et un service qualité puisque nous sommes certifiés normes ISO 9001 depuis le 12 avril 2011.
Alors Pascal, on le voit avec une équipe de professionnels, on va dire expérimentés et de ce niveau, on imagine bien que les partenaires financiers doivent être importants pour pouvoir, mais notamment mettre en œuvre vos actions que vous posez chaque année. Alors quels sont-ils ces partenaires financiers, Pascal ?
Oui, alors sur les Hauts-de-Garonne, nous travaillons essentiellement avec le Conseil régional d'Aquitaine, hein, mais également avec le Conseil général de la Gironde. Une participation des communes qui interviennent essentiellement sur des projets collectifs. Tout d'abord la mairie de Senon, Lormont, Florac, mais également sur la presqu'île, nous avons un soutien financier de la mairie d'Ambarès et la Grave, de Saint-Loubès, d'Ambès et de Bassins. À cela s'ajoute sur certaines actions un cofinancement du Fonds social européen. Voilà pour nos financeurs sur les Hauts-de-Garonne.
Alors Pascal, avec vous, d'ailleurs, on vous remercie déjà pour cette première phase de présentation du groupe INSUP. Évidemment aussi sur la présentation de l'INSUP Hauts-de-Garonne dont vous êtes la responsable et effectivement sur cette partie financière, mais on le sait qui est primordiale pour mettre en œuvre toutes les actions que vous proposez, Pascal. Et d'ailleurs, justement, on va revenir avec vous en détail sur mais les schémas, on va pas dire, de formation que vous proposez depuis quelques années déjà sur le territoire des Hauts-de-Garonne. Alors aujourd'hui, on a eu l'occasion déjà de vous rencontrer, évidemment, de vous suivre sur le terrain même, en passage radio, suivre des groupes qui étaient en stage et en formation chez vous. Mais pour nos stagiaires du FEI, Pascal, on va revenir vraiment sur les schémas de formation que vous proposez.
Alors, c'est vrai que le monde de la formation est assez complexe. Alors, on va essayer peut-être de parler de pôle pour permettre à ces jeunes de pouvoir mieux comprendre notre fonctionnement. Alors, on a un gros pôle qui est le pôle orientation, hein, qui va se composer de différentes actions. L'objectif, c'est toujours travailler le projet professionnel dans le cadre d'une insertion sociale et professionnelle avant tout. Donc, nous avons un dispositif qui est une plateforme d'orientation et d'accès à la qualification et à l'emploi. Hein. Donc, ce sont des plateformes qui sont ouvertes à toute personne qui sont suivies dans le cadre soit d'une mission locale, soit d'un pôle emploi ou également d'un cap emploi, hein, puisque nos formations s'adressent à des demandeurs d'emploi, des jeunes de moins de 26 ans, mais également des travailleurs handicapés. Donc l'objectif, c'est d'élaborer, construire, valider et confirmer un projet professionnel. Donc ça, c'est l'objectif premier de la plateforme. Puis ensuite, les stagiaires que nous accueillons donc expérimentent et valident des choix d'insertion professionnelle afin d'élaborer très souvent, enfin, c'est la mission première, hein, afin d'élaborer un plan d'accès à la qualification et ou l'emploi. Voilà pour le premier gros dispositif. Alors, c'est une action qui, en moyenne, dure 385 heures. Donc, ça fait à peu près 3 mois de formation. Mais il faut savoir qu'il y a, ça peut aller de 70 heures à 490 heures en fonction du projet, puisque chaque parcours est individualisé. La personne peut rester jusqu'à 490 heures en formation. Voilà. Donc, 12 modules leur sont proposés en fonction du travail qui a été fait en amont avec le conseiller de la mission locale ou le conseiller Pôle emploi ou Cap emploi, hein, des modules sont sélectionnés avec pour objectif de répondre aux attentes donc des stagiaires que nous accompagnons. Voilà pour ce premier dispositif. Alors, sur chaque dispositif, il y a toujours ce qu'on appelle de l'alternance. L'alternance, c'est ça se fait en entreprise, c'est découvrir concrètement un poste de travail. Approfondir, bien sûr, les différentes compétences, savoir, savoir-être, savoir-faire qu'il faut pour le métier qui a été ciblé ou le secteur d'activité. Approfondir aussi sa connaissance de soi dans le milieu du travail, parce qu'on peut être attiré par un secteur et puis s'apercevoir que ben, ça ne correspond pas à la réalité. Par exemple, la vente, parce que c'est quelque chose qui attire parfois les jeunes, mais la vente, c'est parfois 10 heures debout dans un magasin à piétiner. Et on peut avoir de très bonnes compétences, mais ça peut poser parfois problème.
Et puis, j'ai envie de dire, c'est un vrai métier, quoi. Ça s'apprend, quoi.
Hein. Il faut des compétences, tout à fait. Voilà. Donc, compétences des savoirs, mais aussi du savoir-être. Donc, c'est vraiment un vrai métier, tout à fait, Jean-Christophe. Voilà. Voilà pour le premier dispositif, essentiellement. Ensuite, nous avons des découvertes de métiers. Alors, ce sont des actions d'orientation, toujours des plateformes, mais vraiment spécifiques. Donc, l'objectif, c'est toujours élaborer un projet professionnel, mais c'est une plateforme qui va faciliter le lien entre découverte de certains secteurs d'activité qui sont ciblés, qui sont l'industrie. Alors, l'industrie, c'est quoi ? C'est pour cette plateforme, c'est la métallurgie, c'est la plasturgie, c'est la peinture industrielle, mais également découvrir dans le deuxième secteur les métiers de l'habitat. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les métiers de l'habitat ? C'est le bâtiment, tout ce qui est maçon, carreleur, plaquiste, menuisier, ou les travaux paysagers. Troisième secteur, c'est le secteur des services. Alors ici, nous avons ciblé uniquement les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, et le cinquième secteur sont le BTP. Bâtiments et travaux publics. Donc les personnes qui sont envoyées sur ce dispositif viennent pour découvrir un ou deux secteurs et à l'intérieur une connaissance des différents métiers. La spécificité de cette action, c'est que nous sommes partenaires avec des organismes de formation qualifiants et donc derrière, en plus de la découverte des métiers, il y a également l'acquisition des premiers gestes techniques. Donc les personnes jeunes ou adultes passent sur des plateaux techniques et en 15 jours sont initiés, puisque l'objectif, c'est de leur faire découvrir les premiers gestes techniques en industrie, en habitat, pour les métiers des services, hôtellerie, restauration ou dans le BTP. Voilà, l'objectif derrière, c'est accéder à un parcours de qualification. Donc, c'est vraiment une découverte des métiers et une mise déjà en pratique, puisqu'après l'expérimentation sur des plateaux techniques, ces personnes-là partent 3 semaines en entreprise pour mettre en application. D'autres actions encore spécifiques au niveau de l'orientation, c'est une orientation spécifique au métier du transport, transport de la personne ou de la marchandise. Donc nous travaillons en partenariat avec 2 organismes de formation, ECF et Feu Vert. Et donc les objectifs des personnes qui sont, que nous recevons en information collective, c'est de valider le choix d'un métier, entre un permis C, EC, une FIMO, un titre professionnel supporteur ou un titre professionnel interurbain de voyageur. Donc les personnes, à travers ce module d'orientation, ce banc d'essai, viennent pour essayer de cibler plus précisément ce secteur-là. Donc on travaille avec eux tout ce qui est l'environnement, je dirais, économique et local, puisque l'objectif, c'est après la qualification, l'insertion professionnelle. Mais c'est cette première étape qui va leur permettre de faire un choix de métier, non de formation. Voilà. Et on travaille également dans cette phase d'orientation sur un autre secteur qui est tout ce qui est transport de personnes sanitaires. Et là, ça concerne tout ce qui peut être auxiliaire ou diplômé d'État ambulancier. Oui, sur l'orientation, et je reviendrai tout à l'heure, puisque comme vous l'avez dit, Jean-Christophe, vous nous accompagnez sur des actions, et notamment sur trois actions spécifiques qui sont les projets collectifs MPEA et Aquitaine Cap Nouvelle Chance. Donc Aquitaine Cap Nouvelle Chance, c'est aussi une plateforme où on travaille le projet professionnel, mais la spécificité de cette action, c'est qu'elle va permettre de travailler ce projet personnel et professionnel par une approche différente, puisque nous allons travailler ce projet personnel en parallèle de la mise en œuvre d'un projet collectif. Projet collectif pour lequel vous avez été là le 12 juillet, puisque nos 12 stagiaires que nous avons accueillis sur une période de 9 mois, donc qui ont... L'objectif, je le rappelle, hein, c'est l'orientation professionnelle, l'accès à la qualification, l'emploi, si c'est possible. Donc, on réalisait deux objets ou deux projets collectifs qui ont été projetés au Rocher de Palmer, qui est notre partenaire là-dessus. Donc, l'avantage de cette action, c'est qu'elle est... Alors, c'est une expérimentation, hein, c'est une action innovante sur le territoire, financée, bien sûr, par le conseil régional d'Aquitaine, donc doit permettre pour un public qui a perdu tous ses repères, qui est en décrochage avec les règles de socialisation, retravailler un projet professionnel. Et à travers le projet collectif, on l'a vu, l'action se termine mardi prochain, ce qui ressort, c'est cette prise de confiance et cette envie de repartir. Voilà. Donc, je finis, voilà, le pôle orientation, c'est différents types d'actions complexes, mais qui peut répondre aux besoins de publics totalement différents.
On le voit, Pascal, les trois grands axes principaux avec ce groupe INSUP, et notamment avec l'INSUP Haut-de-Garonne. Alors, vous l'avez dit, ces programmes, ces schémas d'orientation, de formation, sont proposés pour un public jeune, hein, entre 16 et 26 ans, c'est bien ça, Pascal ?
Tout à fait. Cette action-là était une action dédiée essentiellement sur des jeunes en décrochage scolaire qui font partie du réseau Deuxième Chance. Hein. Donc, c'est 16-25 ans.
Et alors, j'ai envie de me placer, Pascal, à la place de jeunes hein, qui pourraient nous écouter, ou même ici, les jeunes présents dans le cadre de cette formation du Fonds européen d'intégration, se dire, mais nous, on est jeunes, on est justement dans cette tranche d'âge, entre 16 et 25 ans, et donc ils se posent la question, mais comment on va y arriver ? Alors, il faut passer obligatoirement, vous l'avez dit, les prescripteurs, c'est Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi.
Tout à fait. Voilà, un jeune qui, d'abord, la formation professionnelle s'adresse à des jeunes qui ne sont plus dans le cadre de la formation initiale. Hein. Donc, la scolarité étant obligatoire jusqu'à 16 ans, voilà, nous ne recevons pas de public qui ont moins de 16 ans. Ensuite, c'est un public qui est accompagné, suivi, alors pour les jeunes, par les missions locales. Et parfois, ça peut être le moyen de faire le relais pour des jeunes qui n'ont pas de structure d'accueil ou qui n'ont pas d'accompagnement dans le cadre d'une mission locale. On travaille aussi avec les partenaires sociaux du territoire, les travailleurs sociaux, les associations. Et parfois, ça nous arrive d'avoir des jeunes qui viennent frapper. Et donc, on les renvoie ou on leur propose de les accompagner vers la mission locale pour en effet faire cette démarche, puisque ce sont des actions de formation. Mais le conseiller mission locale va travailler avec cette jeune personne et va vérifier que la formation, puisqu'ils connaissent bien ces dispositifs, on leur présente en début d'action. Ils sont également sensibilisés par le conseil régional du programme d'offres de formation qu'il y aura sur le territoire, c'est l'INSUP. Ou ça peut être un autre organisme. Donc, il y a tout un travail qui est fait en amont hein, par le prescripteur et qui va positionner cette personne-là. Donc, il y a une fiche de prescription qui est rédigée par le prescripteur et proposer, enfin, c'est de façon, puisque c'est Aquitaine Cap Métier qui recense l'ensemble des prescriptions. Et donc, chaque titulaire de marché, puisque ce sont des marchés, imprime la fiche de prescription et convoque le jeune à une réunion d'information collective. Donc ça, c'est la première étape. Lors de cette réunion d'information collective, et les actions sont présentées beaucoup plus longuement, puisque je sais que le temps nous manque un petit peu, donc avec les objectifs, les contenus, le public ciblé, les conditions d'accès, puisqu'il y a aussi des conditions d'accès pour entrer sur ces formations, hein. Le lieu, la durée, les rythmes, le nombre de places, les dates des différentes sessions. Certaines sont en entrée et sortie permanente, d'autres peuvent être à date fixe, c'est ce qu'on appelle des entrées séquencées. On a une date d'entrée et il y a une présentation des partenaires et des financeurs à chaque réunion d'information collective. Voilà. Suite à cette réunion, un entretien individuel a lieu et lors de cet entretien, le référent de l'action, donc c'est, je vous les ai présentés tout à l'heure, nous avons 4 référents sur le site de ce nom. Donc, s'entretient pendant un quart d'heure, 20 minutes, tout dépend de la personne qu'elle reçoit, et voir si ça correspond aux attentes également de la personne. Si c'est le cas, donc on informe la mission locale que cette personne pourra rentrer en formation à partir de telle date. Et le parcours est lancé. Puisque très souvent, nous pouvons être une étape dans le parcours de la personne, étape pour un jeune de la mission locale, mais également de Pôle emploi. Voilà.
Très bien, Pascal. Alors, vous parliez de conditions nécessaires aussi pour entrer dans ces parcours de formation, d'insertion. Quelles pourraient être les conditions qui seraient, on va dire, prohibitives, qui empêcheraient de pouvoir entrer dans ces formations, à part le critère de l'âge, on l'a bien compris.
Alors, il y a différents types de critères. Dans la mesure où les actions qui sont financées par le Conseil régional d'Aquitaine, pour les personnes qui ne seraient pas bénéficiaires d'allocations, Pôle emploi, la région attribue un revenu social de formation et pour cela, bien sûr, donc, qui est géré par l'Agence des services de paiement, ce que nous appelons dans notre jargon l'ASP. Donc il y a des conditions par rapport à, ne serait-ce qu'à ce versement de revenus de formation. Donc il faut en effet, comme vous le disiez, Jean-Christophe, un critère d'âge, mais également il faut être titulaire d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour en cours de validation. Donc on insiste beaucoup là-dessus, puisque une personne qui aurait une carte qui pourrait être périmée, son dossier administratif serait rejeté par l'ASP. Donc c'est parfois, et la mission locale travaille sur les critères en amont, avant l'entrée en formation. Ensuite, ça peut être des critères liés à l'acquisition de savoir, par exemple savoir lire et écrire, puisque sur des actions ou l'objectif comme par exemple MMS et l'entrée en qualification, la personne peut être intéressée par le secteur, peut avoir de bonnes compétences manuelles pour exercer le métier. Parfois, on s'aperçoit que le niveau scolaire, malheureusement, ne suffit pas pour pouvoir répondre aux critères, cette fois-ci, de sélection des organismes qualifiants. Et donc, il y aurait peut-être besoin d'une remise à niveau en amont. Donc, il y a parfois ce critère-là. Il peut y avoir un critère d'engagement également, en fonction des actions. Hein. Par exemple, être en capacité de s'engager sur un parcours de 9 mois. Donc, c'est
disponibilité,
volonté, voilà.
Plus que des velléités, quoi. Il faut vraiment avoir envie.
Tout à fait. Après, ça peut être également des critères liés à la localisation géographique, puisqu'il peut être prévu que c'est une action spécifiquement destinée à des personnes vivant sur la rive droite ou relevant de public de ZUS en zone urbaine sensible, essentiellement. Tout dépend après des actions qui sont mises en œuvre et des financeurs. Mais essentiellement, la première condition, surtout quand c'est une action qui est financée par le Conseil régional d'Aquitaine, c'est d'être titulaire pour nous d'une carte d'identité en cours, ou d'un titre de séjour, bien sûr, en cours de validité. Après, il faut l'ouverture d'un compte à son propre nom. Il faut un numéro de sécurité sociale. Donc, très souvent, on a des jeunes qui sont encore sous le numéro de leurs parents. Donc, ce sont toutes ces démarches-là qui doivent être faites en amont ou au moment de l'entrée en formation.
Voilà, Pascal, merci Pascal Marot pour ces précisions. C'est vrai qu'on s'adresse à ces stagiaires du FEI. Donc, on le sait, le critère de sélection publique, il faut qu'ils soient en situation régulière. Donc, ça va. Donc, cette cause, déjà, elle est remplie. Après, c'est vrai que je vous entendais, Pascal, sur effectivement avoir un niveau, ne pas être analphabète et pouvoir lire et écrire. Donc, la plupart, bon, ont fait d'énormes progrès depuis qu'ils sont arrivés en France. D'ailleurs, ils vont faire des articles dans la presse, des émissions radio. Donc, on pourra juger sur pièce, on va dire, de leur talent à la fois d'écrivain et d'orateur. Mais c'est vrai, vous reveniez en précisant ces conditions finalement d'accessibilité aux différents schémas que l'INSUP Haute-Garonne propose. On y est quand même sur l'importance de ces partenaires, étant sur l'aspect financier, vous le disiez, avec le partenariat avec la région Aquitaine, qui permet d'avoir ce revenu de formation, qui, on l'imagine bien, Pascal, permet quand même une certaine autonomie pour le jeune, tout en se formant à une qualification ou demain vers une nouvelle qualification, mais aussi les partenariats avec les prescripteurs, et vous le disiez tout à l'heure, la mission locale d'une part pour l'emploi, Carpemploi. Donc on peut dire quand même que ces actions, on va dire, sont réalisables ici sur un territoire comme les Hautes-Garonnes, justement par la constitution d'un réseau d'acteurs, de partenaires qui travaillent ensemble, et c'est le cas avec l'INSUP, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Voilà, il y a, comme vous le dites, Jean-Christophe, il y a un partenariat local très fort, hein, qui fait que, voilà, quand est identifiée une personne, une difficulté, le réseau peut être sollicité pour trouver la solution. Mais je voudrais revenir sur la notion de niveau, parce que, voilà, on peut avoir arrêté l'école très tôt ou venir d'un pays étranger. Ou autre, il faut savoir qu'il y a des formations, hein, de remise à niveau, ce qu'on appelle compétences clés, alors là qui sont financées à la fois d'un côté dans le programme régional de formation, mais également par l'État, puisqu'il y a les compétences clés État, et qui, toi, peuvent permettre à des personnes qui pourraient se sentir éloignées d'améliorer l'acquisition des savoirs dans un but vraiment professionnel, puisque c'est l'objectif qui est recherché à travers ces compétences clés. Il y a différents niveaux, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et en fonction des niveaux, ça doit permettre, j'insiste là-dessus, parce que, en effet, les petits jeunes que vous accueillez dans le cadre du projet, ben, on peut se dire, oui, mais moi, si je veux faire ce métier-là, je ne peux pas. Il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui permettent d'atteindre les prérequis pour aller sur des formations qualifiantes.
Merci encore pour ces informations, Pascal. Alors peut-être un mot, parce qu'on le sait, bon voilà, l'INSUP Haute-Garonne, vous travaillez beaucoup, notamment sur les villes du GPV, mais pas uniquement, hein, Passins, Senons, Florac-Glormont, et puis évidemment les autres villes périurbaines. Donc on le sait, beaucoup de quartiers, on parle de quartiers populaires, de quartiers sensibles, bon, tous les attributs ou tous les adjectifs, des fois ils passent. Mais donc on le sait que dans ces quartiers populaires, on trouve beaucoup de jeunes, on va dire, loin de la formation, loin des acquis de base, et finalement loin de l'emploi. On est bien d'accord sur ce constat. Et aujourd'hui, on peut dire, par l'intermédiaire de votre action, vous propre et particulière à l'INSUP Haute-Garonne, mais aussi dans le collectif d'acteurs, de partenaires, dont on a pu en citer quelques-uns, on va dire que l'ensemble de cette action en réseau, est-ce qu'elle permettra demain, finalement, de rendre, on va dire, un peu plus en adéquation l'offre, on va dire, du côté des entreprises, et puis la demande de ces jeunes aussi qui, pour la plupart et en grande majorité, souhaitent s'insérer, travailler dans la société.
Alors, en effet, l'objectif, c'est l'insertion professionnelle, mais Jean-Christophe vous le dit très bien, certains jeunes sont très éloignés de l'emploi. Les codes d'entreprise sont durs parfois pour ces jeunes-là. Et en effet, le réseau constitué, je pense essentiellement, ouais, je vous ai parlé tout à l'heure de notre psychologue clinicienne, hein, qui est un relais. Et quand on rencontre une difficulté avec un jeune, l'objectif, c'est de mettre en place une médiation, hein, que ce soit avec un travailleur social comme l'AJAG ou le CAE de Senon ou le UAJ ou le SPIP également, hein, puisque nous faisons aussi des accompagnements dans ce cadre-là. Le but, ben, une fois que le frein est identifié, le but c'est de travailler sur ce frein, mais sans oublier de valoriser tout de même les compétences qu'ont nos jeunes, même s'ils peuvent être dans un premier temps éloignés de l'emploi. Et c'est, il faut parfois du temps pour se construire, du temps pour mener à bien un projet.
On les valorise des fois par des biais, le biais du projet collectif, du projet artistique, pour après faire un transfert sur le projet professionnel finalement.
Alors tout à fait, il y a ce transfert-là, hein. En effet on identifie des savoirs, des savoir-être ou des capacités, mais également sur des jeunes qui seraient sur des actions beaucoup plus traditionnelles, travailler vraiment sur leurs compétences ou leurs atouts, parce que parfois ils n'ont pas pris connaissance ou ils ne sont pas conscients de leur atout. Et c'est vrai que ce partenariat, quand on arrive à lever certains freins, donc pour certains c'est parfois plus long que pour d'autres, mais ça les amène, parce qu'on a de beaux parcours et de belles réussites.
Alors oui, tout à fait, vous le disiez tout à l'heure, des fois il y a les temps de formation qui peuvent aller jusqu'à 9 mois, et Pascal, donc le temps d'une gestation, on voit qu'il faut un temps assez long. D'ailleurs, on a eu l'occasion de vous rencontrer à l'occasion de la visite de Vincent Peillon, hein, qui n'était pas encore ministre de l'Éducation nationale, mais qui était en campagne pour le candidat socialiste à l'époque, François Hollande, qui est devenu depuis président, et qui revenait, je me rappelle, dans son intervention, notamment à MPEA, à ma petite entreprise en Aquitaine, à Lormont, qui revenait sur cette notion de temporalité, de prendre le temps, justement, de la formation. Alors, il regrettait aussi que peut-être ce temps-là n'avait pas été pris dans la formation initiale et qu'on était obligé par ailleurs, par la suite plutôt, mais de rattraper ce qui n'avait pas été fait dans un premier temps. Et d'ailleurs, l'INSUP, c'est une partie de sa mission, justement, c'est de rattraper les déséquilibres qui peuvent exister, notamment des fois, par rapport à une partie de la population. On le disait, une mission importante pour ces jeunes éloignés de l'emploi dans les quartiers populaires. Mais on a envie de dire aussi pour des jeunes qui seraient comme ces jeunes qui sont dans le cadre du Fonds européen d'intégration qu'on a ici à la radio, ces jeunes du FEI, qui arriveraient de pays étrangers aussi. Ça peut être un biais, un moyen justement d'accéder à une qualification, Pascal.
Oui, tout à fait. On peut venir travailler son projet professionnel pour ces petits jeunes du FEI. On peut avoir une remise à niveau ou on peut bien sûr participer à une aventure comme vous venez de le souligner sur les projets collectifs. Et puisque Muriel Picassou, donc, qui était responsable du site, a mis en œuvre dans les fin des années 90, début des années 2000, hein, ce qu'on appelle les projets collectifs de création artistique. Idée, image qui a été reprise, en effet, vous le dites, par une personne qui n'était pas encore ministre de l'Éducation, mais en faisant le pari de l'écriture, des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique, pour permettre à ces jeunes de reprendre confiance, mais également de prendre le temps de se réapproprier, d'avoir envie d'apprendre. Puisqu'il y a parfois cet échec scolaire, hein, qui est derrière, et le pari a été fait, donc, de projets artistiques et culturels, donc par la réalisation, hein, vous nous avez accompagnés le 3 juillet dernier sur la présentation de nos deux actions qui sont l'art d'agir, inciter pour entreprendre, et Procréa, donc une action qui est sur ce nom, et l'autre sur la presqu'île d'Ambarès, où ces jeunes, pendant 9 mois, ont travaillé leur projet personnel et professionnel, puisque là, l'objectif, ce n'est pas forcément l'insertion professionnelle, hein, dès le départ, même si c'est un objectif qui est forcément sous-jacent derrière, puisque l'objectif, ces jeunes-là souhaitent travailler, comme vous le disiez, Jean-Christophe. Ils n'ont qu'une envie de travailler, mais on travaille sur d'autres aspects de socialisation qui vont leur permettre d'avoir tous les éléments, tout à fait, de se reconstruire parfois, de reprendre une place dans un environnement parfois qui est hostile pour eux, pour pouvoir ensuite enclencher sur un parcours pré-qualifiant ou qualifiant.
Donc on le voit, l'importance effectivement de ces formations proposées, ne serait-ce qu'en termes de cohésion même pour notre société, Pascal. Et j'ai envie de pour dernière question, alors même si évidemment on l'a bien compris, c'est pas la mission principale de l'INSUP, c'est pas la prévention et la lutte contre la discrimination, mais j'ai quand même envie de vous poser cette question, Pascal. Je me dis, de par ce que vous engagez aujourd'hui sur ce territoire d'Haute-Garonne, par ce que vous proposez aujourd'hui aux différents partenaires et finalement en direction de ces publics cibles, et que peuvent être les enfants dans les quartiers populaires qui ont quitté l'école sans diplôme, ou encore des jeunes étrangers qui pourraient arriver sur ce territoire sans formation qualifiante ou sans diplôme. Du fait de votre action, de par vos activités, les schémas, les propositions aujourd'hui réelles, effectives sur le terrain, d'une certaine façon, d'une certaine manière, Pascal, l'INSUP, on va dire, prévient et lutte contre les discriminations dans notre société, du coup, est un acteur important aussi de la cohésion sociale de notre société, Pascal.
Oui, tout à fait. C'est un combat qui a été engagé, je crois, il y a de très très longues années. Moi, je suis arrivée sur le territoire il y a 2 ans, même si mon expérience au sein de l'INSUP est beaucoup plus ancienne. Mais voilà, c'est un combat qu'a initié, je crois, Muriel Picasso et que j'essaie de continuer avec elle. Et en effet, la cohésion sociale est quelque chose qui est l'élément premier, voilà, de la mission que se fixe l'INSUP des Hauts-de-Garonne. Voilà, mais je sais que Muriel en parlerait beaucoup mieux que moi, mais elle n'est pas présente, voilà, donc...
En tout cas, Pascal, on vous remercie d'avoir pris sur votre temps, qui on le sait. Merci beaucoup, Pascal Marot, d'être passé à la radio. Donc, évidemment, les stagiaires du FEI vont pouvoir entendre l'intégralité de l'intervention le 10 août, voilà, le vendredi 10 août. En tout cas, on aura l'occasion de se recroiser très bientôt, Pascal, et peut-être une visite avec vous de ma petite entreprise en Aquitaine au mois de septembre avec nos stagiaires. On salue Muriel Picasso, si les stagiaires la connaissent pas encore, mais ils auront peut-être l'occasion de la rencontrer. Merci encore Pascal et puis on vous souhaite une longue aventure encore, on souhaite longue vie, longue aventure à l'INSUP Haute-Garonne.
Merci beaucoup Jean-Christophe, j'en profite également pour rappeler ou donner rendez-vous à l'ensemble des auditeurs le 21 septembre pour ceux qui n'auraient pas pu être présents. En effet, c'était dans le cadre du Festival de Haute-Garonne culturel. On a parlé de Aquitaine Cap Nouvelle Chance. Les jeunes vont avoir le plaisir de pouvoir représenter les 2 vidéos qui ont été réalisées dans le cadre du lancement de la campagne du Rocher de Palmer. Donc Jean-Christophe, je sais qu'on se retrouvera. Voilà. Merci de m'avoir reçu et puis merci aux jeunes du FEI et on se donne rendez-vous en septembre.
Merci encore Pascal. À très bientôt.